La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je vous invite à prendre votre Bible dans Apocalypse 22, versets 17 à 21. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens » et que celui qui entend dise « Viens » et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. »
La semaine de prière est bien sûr l'occasion de nous réunir tous les jours pour prier ensemble, mais aussi pour méditer la parole de Dieu. Et cette année, comme la chrétienté célèbre le 500e anniversaire de la réforme protestante, eh bien le thème qui a été retenu, c'est « Par la grâce seule ». C'est l'un des grands principes de la réforme protestante. On y trouve l'écriture seule, la grâce seule, le Christ seul, la foi seule, et le sacerdoce universel des croyants, c'est-à-dire l'implication de tous dans le partage de la parole. Une église qui se réforme en permanence et dans laquelle les membres jouent un rôle actif. On pourrait dire aussi le cinquième principe comme étant le soli deo gloria, à Dieu seul la gloire à travers l'Église. Et j'imagine que vous avez reçu cette revue dans sa version numérique. Donc, elle vous a été envoyée par deux fois déjà. Nous en avons quelques-uns sous la main, dans ce format papier. Donc, ces exemplaires seront pour ceux qui viendront au cours de la semaine et qui en auront particulièrement besoin. Le premier sabbat de la semaine de prière est consacré au principe du sola scriptura, c'est-à-dire de l'écriture seule. Ce sont deux mots latins, vous l'avez compris, qui veulent dire la Bible seule ou l'écriture seule. Et c'est le président de la conférence générale qui signe cette première réflexion, qui est en fait une prédication. Vous la lirez. Le texte lui appartient. Et donc, vous verrez qu'il a à cœur de rappeler que la parole de Dieu est le fondement de notre foi, d'où le titre qu'il a choisi. La parole de Dieu, fondement de notre foi. Il mentionne quelques faits historiques marquants pour rappeler que de nombreux hommes ont donné leur vie justement pour avoir défendu ce fondement. Et que en face des réformateurs, il y a bien sûr ceux qui s'opposent à cette réforme et qui veulent l'étouffer, ou en tout cas empêcher qu'elle aboutisse. Et donc, une des phrases qui est soulignée ici, c'est « L'heure est venue de développer une foi et une confiance totale en la parole de Dieu. » Je me suis posé la question suivante. Pourquoi donner tant d'importance à la Bible? Pourquoi parler de l'Écriture seule? Immédiatement, ces paroles qui nous ont été lues par Michaël me sont venues à l'esprit. Vous vous rendez compte, la Bible se termine par un avertissement solennel, donc déjà un appel à recevoir gratuitement ce que Dieu a donné, sa justice, n'est-ce pas, sa grâce. Ça, c'est au verset 17, « Viens, viens boire à la source, viens prendre de l'eau de la vie gratuitement. » Et puis au verset 20 et 21, le Seigneur dit « Je reviens ». Et l'Église lui répond « Oui, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons avec impatience, viens ». Et entre l'invitation à venir boire aux sources de la vie et cet appel adressé au Seigneur qui revient, il y a un avertissement. Un avertissement solennel qui dit au lecteur, interprète de la Bible, attention, ne touche pas à ce texte. Reçois-le tel qu'il est. Tu n'es pas autorisé à en retrancher quoi que ce soit. Tu n'es pas non plus autorisé à y ajouter quoi que ce soit. Et sachant que l'Apocalypse est un livre qui résume la Bible en quelque sorte et qui la complète par des prophéties, bien je me dis cela vaut pour l'Apocalypse certes, mais pour la Bible entière. D'autant que ce principe d'interprétation, que les experts appellent un principe herméneutique, eh bien on le retrouve au début de la Bible, dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 2 notamment, et chapitre 12, verset 32 pour les chercheurs. On trouve ce principe au début de la Bible, on le trouve au milieu de la Bible, Proverbe 30, verset 6, et on le retrouve à la fin de la Bible, Apocalypse 22, versets 18 et 19. Malheur à quiconque modifie le texte biblique, malheur à quiconque y ajoute quoi que ce soit, ou en retranche quoi que ce soit. Parce que ce texte a une valeur exceptionnelle. Ce texte exprime la pensée, la volonté et l'agir de Dieu. Alors, puisqu'on parle du 500e anniversaire de la réforme protestante, je vous propose qu'on parle un instant du grand réformateur qu'est Martin Luther et justement de son rapport à la Bible seule. Comment est-il sorti des traditions qui justement empêchaient en son temps la chrétienté d'accéder à la Bible seule et de recevoir son message dans sa pureté? En 1229, pour mémoire, un concile réuni à Toulouse, un concile donc réunissant des ecclésiastiques, a, je cite, « interdit aux laïcs d'avoir les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. » Et le texte ajoute « On détruira entièrement jusqu'aux maisons, aux plus humbles abris, et même aux retraites souterraines des hommes convaincus de posséder les Écritures. » C'était donc au début du XIIIe siècle. La lecture de la Bible est réservée aux membres du clergé, qui sont les seuls habilités à la lire et à l'expliquer. Un peu plus tard, en 1230, un synode réuni à Reims interdit, je cite, « de traduire en français, comme on l'avait fait jusqu'alors, les livres de la Sainte Écriture. » Parce qu'au XIIe siècle, les traductions de portions de la Bible avaient fleuri, y compris celle de Pierre Valdo. Pierre Valdo, un vaudois. Et donc, justement, les vaudois étaient accusés par les prélats d'un désir immodéré de connaître les Écritures. Ceci dit, le Seigneur va, qu'on avait tenté de museler à ce moment-là, va orienter les circonstances de manière à libérer sa parole. De manière à ce que ce livre puisse être diffusé, donc ses paroles, dans le monde entier. Et c'est donc le 23 février 1455 que Gutenberg imprime une Bible, un premier exemplaire de la Bible, en latin certes, mais déjà c'est une belle avancée. Et c'est après cela que naît Martin Luther. Il est né le 10 novembre 1883, environ 30 ans après l'impression de la première Bible en latin par Gutenberg. Ok. Luther naît dans une famille modeste. Son père travaille dans les mines de cuivre. Ses grands-parents sont paysans. Luther connaît la pauvreté et il va devoir se battre contre des circonstances adverses dès son plus jeune âge. Cependant, il va commencer des études de droit parce que son père veut en faire un avocat. Et voilà que, au cours de l'été 1505, eh bien, au cours d'un orage particulièrement violent, donc c'est en 1505, Martin Luther a 22 ans. Et au cours d'un orage, je disais, très violent, son ami qui est à côté de lui, Conrad Wiegand, est frappé par la foudre et tué sur le coup. Et Luther, dont la vie est sauve, à ce moment-là, complètement paniqué, s'adresse dans sa foi juvénile à Sainte-Anne et lui dit, écoute Sainte-Anne, si tu me laisses la vie sauve, eh bien je me fais moine. Et vous le savez, Luther s'en est sorti, sain et sauf, et il a tenu parole. Il s'est fait moine aux grandes dames de la famille, et notamment du papa qu'il a boudé pendant 2 ans. En 1507, 2 ans après, il est ordonné prêtre. Tout allait vite. C'est un élève brillant, il a une bonne mémoire, une pensée vive et pénétrante. Et étant donné ses qualités d'étudiant, ses qualités personnelles, eh bien, rapidement, on lui confie une chaire de théologie à Wittenberg. Et c'est à cette occasion qu'il va commencer à rédiger un commentaire sur l'Épître aux Romains. Déjà au couvent, il était attiré par la Bible et il se rendait souvent dans ce coin où il pouvait ouvrir la Bible, si tu veux bien envoyer la première image, et l'étudier. Et en tant que jeune professeur, eh bien, il avait cette passion de la lecture et de l'étude de la Bible. Et c'est l'Épître aux Romains, bien sûr, qui a fait tous ses délices. Ce n'est pas pour rien qu'on étudie en ce moment l'Épître aux Romains. Ça coïncide aussi avec l'expérience de Martin Luther et les débuts de la réforme protestante. Et c'est là qu'il découvre que la foi, c'est une union avec le Christ, que les sacrements ne sont pas efficaces en eux-mêmes, que finalement, il faut l'adhésion du fidèle à la parole de Dieu pour que celle-ci déploie toutes ses vertus, pour que la grâce puisse advenir. Et Luther va comprendre que la justice est donnée par Dieu à l'homme pécheur. Et il va insister sur la notion de justice passive. Dieu revêt le pécheur repentant de sa justice. Elle lui est donnée gratuitement. Et il avance dans ses réflexions jusqu'à réaliser finalement que les indulgences et d'autres pratiques de l'Église dont il est le serviteur n'ont rien à voir avec les enseignements de la Bible. Et c'est là qu'il développe en lui-même le principe de la grâce seule, de l'Écriture seule, comme source d'autorité. Cela va le pousser à produire ces fameuses 95 thèses contre les indulgences, qu'il publie en 1517. Nous sommes en 2017, 500 ans après, et il les publie le 31 octobre, en les affichant, vous le savez, sur la porte de la chapelle du château de Wittemberg. Bien. Là, c'est un défi à ses collègues, un défi à ses supérieurs, un défi à la curie romaine, un défi au pape lui-même, qui est donc au sommet de ce système hiérarchique. Et là, il développe à travers cette fronde l'idée que l'écriture seule, eh bien, doit normer nos croyances et nos pratiques. Sola, scriptura, l'image suivante. Après avoir bien étudié, avoir bien compris le texte, et notamment, j'imagine, qu'il a dû lire la finale de l'Apocalypse, n'est-ce pas ? Il faut l'imaginer. Ainsi que les autres passages où il est rappelé que le lecteur, ou qui que ce soit d'autre, n'est pas autorisé à transformer ce texte, à le modifier. Ce serait faire mentir Dieu. Ce serait manquer de respect à Dieu. Vous voyez, donc, c'est quand même derrière ce retour aux Écritures le désir d'être agréable à Dieu, le désir de faire sa volonté, parce que Dieu dit « Celui qui touche à ma parole ne restera pas impuni. » Parce que c'est toucher à ma gloire, à ma personne. Et donc, il va développer le principe de l'Écriture seule comme seule autorité en matière de croyance et de pratique. Et il va écarter le magistère, c'est-à-dire le co-enseignant de l'Église. Il va donc le disqualifier. Il va dire, oui, vous aussi vous êtes en mesure de lire le texte et de l'expliquer, mais vous n'êtes pas les seuls à pouvoir le faire. Et peut-être que même vous pouvez vous tromper. Il va dire que la Bible, elle est là pour tous. Et ben, grâce à l'imprimerie et aux traductions en langue vernaculaire, cette Bible doit pouvoir circuler de la main à la main. Il faudrait que chaque foyer dispose d'une Bible. Et vous savez que plus tard, Luther s'attellera à la traduction de la Bible dans un allemand courant. Et d'ailleurs, sa version est devenue célèbre, hein, la version de Martin Luther, qui a subi de nombreuses révisions au cours du temps. C'est comparable un peu à la version James, King James, voilà. J'allais dire James King. La version King James chez les anglo-saxons, qui a aussi subi de nombreuses révisions. C'est la version de base, la version classique allemande encore aujourd'hui. Il va revenir à un sens au sens historique et littéral de la Bible. Dans son acception positive, hein, parce qu'on avait développé jusque-là, surtout pendant le Moyen-Âge, une lecture allégorique de la Bible. Donc ces lectures un petit peu, voilà, imaginaires parfois, un peu poussées, un peu excessives, dans laquelle chaque terme prenait une dimension exagérée certainement. Et donc lui dit, mais il faut prendre le texte comme il est, il faut le respecter, il faut l'approcher et utiliser donc des outils d'interprétation pour cela, afin que notre lecture soit bien dirigée, qu'elle soit intelligente et cohérente, parce que la Bible est cohérente, parce que les livres se complètent et parce qu'il y a une unité palpable au cœur des Écritures, de même que Dieu est un. Les livres de la Bible sont un. Bon. Et il va donc développer la notion de justice de Dieu par la foi seule en Christ Jésus. Et il va écrire, bien sûr. Il refusera de laisser sa plume au repos. Certains lui diront, mais tais-toi. Garde ta langue reste tranquille, que ta plume reste tranquille. Mais non, il va parler, il va écrire. En 1520, déjà, il publie De la liberté du chrétien à la noblesse chrétienne. Donc, c'est un livre qu'il adresse aux responsables politiques et religieux du pays, De la liberté du chrétien. Et puis, un autre livre, Sur l'exil de l'Église en Babylone. Et voilà. Les réactions ne se font pas attendre, elles vont être à la mesure de cette provocation. Le 3 janvier 1521, donc juste l'année après la publication de ses livres, Martin Luther est excommunié. Et cette même année, il va devoir comparaître, s'il vous plaît, bon, je vous passe les détails de l'histoire, devant l'empereur, le jeune empereur Charles Quint. Charles Quint est né en 1500, pile, donc il a quel âge en 1521? C'est simple, il a 21 ans, mais il est empereur. Et bien sûr, il a ses conseillers avec lui, et les princes électeurs aussi de son côté, les bourgmestres, etc., plus les prélats, les chefs de l'Église, tout un système bien consolidé. Et lors de cette diète, hein, qui va durer du 28 janvier au 25 mai 1521, vous voyez, ça dure un certain temps, eh bien Luther va devoir, c'est pas le seul objet hein, de leur rencontre, bien sûr, mais au cours de cette diète, il y a l'ordre du jour est bien sûr relativement long, mais il y a la comparution de Luther qui doit s'expliquer avant, on y a déjà pensé, hein, de le sanctionner, donc le mettre, ce qu'on disait, au banc de l'Empire, de le condamner hein, sévèrement, eh bien il fallait quand même une dernière fois l'entendre, et c'est donc l'empereur lui-même, le jeune Charles Quint, 21 ans, qui va recevoir ce moine Augustin, parce qu'il avait rejoint l'ordre des Augustins, les gens qui étaient des étudiants des écrits de saint Augustin, pour comprendre ça. Et il le reçoit les 17 et 18 avril 1521. Et donc l'image suivante, voilà, vous allez voir deux tableaux de Luther à la diète de Worms, 17 et 18 avril 1521. Worms, c'est une ville en Allemagne qui a donc accueilli cet événement politico-religieux qui, si ça avait été à notre époque, aurait été fortement médiatisé, n'est-ce pas? Et ça a d'ailleurs été aussi médiatisé avec les moyens de l'époque, puisqu'on a des tableaux, on a des écrits très très pointus qui nous font un peu le rapport de ce qui s'est passé. Alors, Luther à la diète de Worms, vous voyez un petit peu le contexte, tableau suivant, image, vous voyez? Une salle opulente avec des gens impressionnants, des gens qui avaient beaucoup de pouvoir. Et c'est devant cette assemblée qu'il va devoir s'expliquer, notre jeune Luther. Parce que, bon, lui aussi n'est pas très âgé. Hein, vous pouvez faire le calcul, on est en 1521 et Luther est né en 1483. 17 et 21, 38. Il a 38 ans, Luther. Et il comparaît devant un empereur de 21 ans, mais aussi devant des personnes extrêmement impressionnantes par leur port, leurs vêtements, enfin, voyez un peu ça, dans une salle impériale, hein, on pourrait dire, d'un standing élevé. Et donc là, on lui demande de s'expliquer. Donc il apparaît, on lui montre ses ouvrages, et on lui dit « qu'est-ce que tu penses ? Il y a là-dedans des hérésies. » Et on aimerait que tu te rétractes, que tu les dénonces en tant que tel. Et ça, c'était le 17 avril, et en gros, Luther va dire, écoutez, donnez-moi un peu de temps. Et donc, on lui dit, ok, tu reviens demain. Et il avait paru un peu faible le premier jour, mais le lendemain, il va revenir, confiant, et il va se défendre. Et il va se défendre justement sur la base de l'écriture seule. Avec un texte qui est extraordinaire, un texte qui a traversé les temps. Je crois qu'il a vraiment été inspiré. Je ne pense pas que ce texte, il l'ait écrit avant de l'énoncer, tout simplement, devant l'empereur. Il va conclure de la façon suivante son plaidoyer. Diapo suivante. Donc là, vous voyez un rapproché hein, de Luther, voilà, pendant son plaidoyer final. Sur le côté droit de l'image, vous voyez les ouvrages qui sont condamnés hein, et auxquels Luther est censé renoncer, tout simplement. Et là, il va résister par la puissance du Saint-Esprit, par les paroles suivantes. Je l'ai mis à l'écran, comme ça vous pouvez lire en même temps que moi. Ce sont ces derniers termes, et c'est bien sûr ce qu'il y a de plus frappant. « À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture, » là il y tient, « ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape, ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits, je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités dans mes ouvrages. Et ma conscience, voilà, ça c'est une phrase célèbre, ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien. » En disant ça, vous savez que là, ok, vous le savez, il est prêt à ça. Hein, et il le sait lui-même, il a dit « j'irai ». Parce qu'il a été convoqué, on lui a laissé un sauf-conduit, mais bon, le sauf-conduit, en fait, c'était un piège. Non, sa vie est menacée. Donc il dit « Je ne me rétracterai en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement que Dieu me vienne en aide. » C'est magnifique! La promesse du Christ s'est accomplie. Le Christ a dit, quand vous serez devant les rois de la terre, les dignitaires, vos juges, eh ben, l'Esprit vous dira au moment même ce qu'il faudra dire. Ça, c'est inspiré par Dieu, ça. Même si ce n'est pas dans la Bible. Ce sont des paroles inspirées, évidemment. Et en allemand, ça donne « Hier stehe ich, me voici. Ich kann nicht anders. » Je ne peux pas me rétracter, je ne puis faire autrement. Gott helfe mir, Amen. Il a parlé en allemand. Dieu, soutiens-moi, viens à mon aide, Amen. Et bien sûr, après, le trouble dans la salle. Ok, ben, si c'est comme ça, ben, tu sais ce qui t'attend. Parce que le jeune empereur n'était pas du tout enclin à rejoindre le parti de la réforme qui, à ce moment-là, était minoritaire. Il y avait déjà quelques princes électeurs qui étaient favorables à Luther et à ses thèses, dont Frédéric de Saxe, qui va d'ailleurs protéger Luther. Parce que, suite à cette déclaration, bien sûr, il est mis au banc de l'Empire. Et le décret impérial est publié le 26 mai 1521, donc le mois d'après, hein, en gros, un mois plus tard. Le 26 mai, Luther est mis au banc de l'Empire par l'édit de Worms. Mais quelques jours auparavant, avant qu'il ne lui arrive un malheur, bien sûr, parce que vous savez, l'édit de Worms donc, condamne et interdit le luthéranisme, prononce la mise au banc de l'Empire de Martin Luther et de ses partisans, interdit la diffusion et la lecture de ses écrits, condamne les schismatiques luthériens ou autres à la confiscation de leurs biens, incite tout sujet de l'empereur à brûler publiquement les écrits hérétiques et à dénoncer les schismatiques en échange de la récupération d'une partie de leurs biens. On monte le peuple contre les réformateurs. Je ne sais pas si vous imaginez. Et le prince électeur Frédéric de Saxe, qu'on a appelé aussi Frédéric le Sage, a une idée géniale. Il a été inspiré lui aussi. Il a dit « Je vais kidnapper Luther. Je vais envoyer des soldats, des hommes en armes pour le kidnapper. » Le tableau suivant montre, là aussi, le moment où Luther est kidnappé. Il ne s'y attendait pas. Il quitte la ville de Worms et il me semble que c'est à cette occasion-là, on s'empare de lui. On lui bande les yeux, on le lit, et puis on l'emmène de nuit, semble-t-il, au château de la Wartburg, à Eisenach. Image suivante. Donc là, on s'empare de lui, les soldats. Luther ne sait pas trop ce qui lui arrive. Et il se retrouve là, dans cette haute retraite. Et ça va être, alors, pour lui d'abord une surprise, mais un moment et un temps béni. Parce qu'il va pouvoir faire le point, il va pouvoir retrouver un petit peu le calme intérieur, qui a été brassé par tous ces événements, effectivement. C'était pour lui aussi un stress que de se rendre à Worms pour participer à la diète impériale. Et donc là, il va trouver le temps, tout simplement, de traduire la Bible. Vous voyez, Jésus a une idée géniale. Dieu a une idée géniale pour Luther. Le mettre à l'abri, préserver sa vie et en même temps lui donner du temps pour traduire la Bible. Et c'est ce qu'il va faire, parce qu'il faut maintenant que la Bible soit diffusée, déjà en langue allemande. Et en 11 semaines seulement, il traduit le Nouveau Testament. En 11 semaines, rendez compte, c'est moins de 3 mois, quoi. Allez, même pas 3 mois. Le Nouveau Testament est traduit. Il était brillant, hein. Donc, et il s'est appuyé sur les textes latins et grecs surtout. Il avait accès au grec. Et donc, voilà, les 27 livres du Nouveau Testament sont traduits en février 1522. Et plus tard, il reviendra à Wittenberg. Je passe sur les détails. Et avec des amis, dont Mélenchon, un certain Mélenchon, eh bien, il va, et d'autres experts, hein, des textes bibliques, il va produire une version complète de la Bible qui va paraître en 1534, donc 12 ans après. 12 ans après, on aura une Bible complète en allemand. C'est formidable. Et donc, ça sera en 1534, 12 ans avant sa mort. Bon. Vous voyez, je crois qu'il est bon de se rappeler un petit peu la vie et l'œuvre d'un homme comme Martin Luther qui a marqué son temps. Mais ce qui en a fait un homme vraiment exceptionnel, c'est pas tellement, bon, je dirais son érudition, si ça a joué, mais c'est surtout par-delà son érudition, je crois que c'est sa grande confiance en Dieu et dans sa parole qui lui ont donné une telle témérité. Que feriez-vous si vous deviez défendre votre foi devant les plus hautes autorités de ce pays ? Lors d'un conseil ministériel, par exemple, que feriez-vous? Que diriez-vous? Avez-vous des convictions en ce qui concerne la Bible? Êtes-vous sûr que c'est la seule autorité en matière de croyance et de pratique? Est-ce que c'est elle qui régule votre vie? Est-ce que vous êtes conscient qu'à travers elle, Dieu vous parle? Parce que le texte biblique, si on se réfère à lui, Nathaniel, l'image suivante, s'il te plaît. Voilà, une des premières éditions de la Bible en allemand, par Luther. Hein, donc, celle-ci a de la valeur, évidemment, on la retrouve au musée de Wittenberg. Un bel ouvrage, imprimé. Et on passe, voilà, à la diapo suivante, avec plusieurs points sur le texte biblique. Le texte biblique, si on en croit ses auteurs, est inspiré de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait connaître la pensée de Dieu à travers l'expression et la pensée humaine. Oui, il y a une connexion entre les deux pensées, celle de l'homme et celle de Dieu, pour produire ce document. Le texte biblique, et vous avez les références à l'écran, il est entièrement éprouvé, il est fiable. Et encore aujourd'hui, on ne peut pas l'attaquer, il est inattaquable, même si on n'a pas accès aux manuscrits. Onciaux, les textes originaux, plutôt les textes de départ, les autographes, comme on dit, eh bien, on a tellement de copies de ces textes que on est sûr à 99% et quand même du contenu des livres. Le texte, il est éprouvé. Et Dieu le dit, ma parole est éprouvée, 7 fois éprouvée, dans le psaume 12. Le texte, il est, troisième point, efficace pour transformer des vies. Dieu dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé, sans avoir exécuté mes desseins. Ésaïe 55, la parole de Dieu, elle est efficace pour juger le cœur humain dans le livre des Hébreux, aux Hébreux. Voilà, elle transforme des vies, elle change les vies de ceux qui la lisent et lui font confiance. Enfin, ou plutôt, elle est aussi transculturelle et transgénérationnelle, cette parole. Jésus l'a dit, ma parole ne peut être, ou la parole de Dieu, les Écritures, ne peuvent être abolies, annulées, sont valables partout, en tout temps, et en tout lieu. Et puis, surtout, la parole de Dieu, elle suscite et elle entretient la foi en Jésus-Christ. C'est la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette parole qui peut nous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, pour recevoir la parole de Dieu, et là je reviens au texte qui nous a été lu par Michaël au départ, eh bien il faut la lire en la respectant. Et donc en respectant un certain nombre de règles qu'elle énonce elle-même. Je les ai rappelées brièvement au début, mais je vais en reprendre quelques-unes qui sont celles que mentionne l'apôtre Paul, un grand interprète de la Bible, un interprète parfaitement autorisé. Et je me fie uniquement à quelques textes, à quelques versets de ces épîtres aux Corinthiens pour énoncer 5 règles élémentaires de la lecture biblique. Pour accéder à ce trésor qu'est la parole de Dieu, eh bien, il faut les bonnes clés. Et donc, nous en retenons 5, Nathaniel, 5 clés d'interprétation qui sont des principes à respecter. Alors, bien sûr, vous avez le privilège, nous avons le privilège de pouvoir lire ce livre dans notre langue. Apprécions ce privilège. Mais en plus, nous avons diverses versions, donc ce qui enrichit encore notre lecture de la Bible. Mais aujourd'hui, il y a aussi moult interprétations de ce texte. Donc, vous voyez, c'est l'envers de la pièce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lectures contradictoires et les interprétations contradictoires fleurissent. Alors, moi qui suis un lecteur du 21e de cette Bible, comment puis-je accéder à la parole de Dieu? Comment puis-je recevoir le message de Dieu pour moi, pour nous, Église aussi? Eh bien, ne pas oublier, première règle, première clé, que Jésus-Christ est au centre de tout. Ça, c'est la première. Dans 1 Corinthiens 2, 2, il dit « Je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ. » Et il ajoute « Jésus-Christ crucifié, ressuscité, etc. » Que Jésus-Christ. Jésus-Christ est le modèle d'interprétation par ses paroles, par son exemple, par la façon dont il incarne. Si vous voulez comprendre l'Ancien Testament, allez voir Jésus. Rapprochez-vous de Jésus. Il est au cœur des Écritures. C'est le premier principe d'interprétation. Il est le témoin fidèle et véritable. Donc, que dit Jésus concernant la Bible? Comment il cite les Écritures? Comment il évoque les passages de l'Ancien Testament? Comment il les applique? Jésus-Christ est le premier critère. Vous avez aussi, ça c'est dans 1 Corinthiens 2, 2, vous avez ensuite l'importance de l'Esprit-Saint dans la lecture de la Bible. L'Esprit-Saint est intervenu pour inspirer les auteurs, mais il intervient en bout de chaîne pour inspirer le lecteur. Est-ce que je suis inspiré quand je lis la Bible? L'apôtre Paul dit « Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu ». Parce qu'il y a un autre esprit qui travaille dans ce monde et qui cherche à me détourner d'une compréhension juste, précise même, de la parole de Dieu. Quel est l'esprit qui m'anime quand j'ouvre ce livre? Troisième clé, et là on rejoint la finale de l'Apocalypse, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'apôtre Paul dit, nous avons donné l'exemple et en nous vous avez appris à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que ce serait ajouter des paroles à celles que Dieu a prononcées. Et là, vous entrez, bien sûr, sur un terrain miné. Et puis, le quatrième point, c'est interpréter l'Écriture par l'Écriture. Les réformateurs étaient très au clair là-dessus. Ils disaient, Scriptura sui interpres. L'Écriture s'interprète elle-même. Elle est son propre interprète. Et l'apôtre Paul l'exprimera de cette façon en disant, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc les prophètes sont soumis entre eux, les apôtres, comprenez, les auteurs de la Bible sont soumis les uns aux autres, puisqu'ils répondent au même esprit et au même désir divin. Et enfin, vous avez 2 Corinthiens 2, 17, où l'apôtre Paul dit, attention, ne falsifiez pas la parole de Dieu. Et donc là, c'est aussi une mise en garde contre le risque de faire coller la parole de Dieu à notre réalité, à nos préjugés, à nos idées personnelles, donc de la soumettre à notre raison ou à nos raisonnements, plutôt que de soumettre notre raisonnement à ce qui est révélé ici et ce qui est dit ici. Alors le mot de la fin, il est très simple, c'est dans la bouche de Jésus que je le trouve. Comment ne pas terminer en vous exhortant à lire ce livre, qui est vraiment un livre littéralement fabuleux. Un livre qui, quand vous l'ouvrez, voilà, c'est comme d'une certaine façon ouvrir les portes de la cité éternelle. C'est jeter un regard dans le royaume de Dieu, dans l'éternité avec Dieu. C'est bien sûr entrer en relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son Dieu, qui est aussi notre Dieu et notre Père. Alors comment ne pas terminer sur cette parole forte de Jésus-Christ qui dit « Mais sondez les Écritures, vous les avez à disposition, sondez-les, ne restez pas en surface, ne vous contentez pas d'une lecture rapide, superficielle, mais sondez les Écritures. Profitez de toutes les occasions que la vie vous donne de les approfondir. Et faites dialoguer les Écritures avec vos expériences. Essayez toujours de trouver une parole de Dieu, une promesse, une histoire biblique en rapport avec ce que vous vivez. Ne séparez pas votre expérience de la parole de Dieu. Ce qui a donné de la force à Martin Luther, c'est d'associer sa vie à la parole de Dieu. Ce qui donne de la force aujourd'hui à l'homme de foi, au chrétien contemporain, c'est justement d'associer la parole de Dieu à ce qu'il vit, de ne pas l'enfermer dans un bâtiment, dire ben, la Bible c'est qu'à l'église finalement que je vais l'ouvrir ou que je vais l'écouter. Non, elle nous est donnée pour une lecture quotidienne, une lecture enrichissante, une lecture édifiante. Je veux dire que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse notre Église, qu'il renouvelle notre foi dans sa parole et qu'il souffle, s'il y a besoin, sur les braises de la passion de la parole de Dieu. Hein, que nous puissions dire avec Jérémie, ta parole est au fond de moi comme un feu. Qui m'allume, qui me fait du bien, qui me réchauffe et qui purifie toutes les saletés qui peuvent éventuellement se trouver. Eh bien, par la grâce de Dieu et par les Écritures seules, nous aurons la victoire. Amen.